Bonjour et bienvenue à Pixel Valley, ici Stéphane Pire, aujourd'hui je reçois Daniel Watley.
Bonjour Daniel Watley aujourd'hui pour Vegetal Valley, comment tu vas ?
Assez bien, un peu occupé par toute une série de questions, c'est une époque où on crée, on invente beaucoup de projets, donc ça prend la tête, mais c'est, c'est pas désagréable.
C'est le début d'année, celui où il n'y a pas de projet à rentrer.
Il y a plein de projets à rentrer pour le moment. On y viendra peut-être.
Oui, on y viendra. Alors, explique-nous qui es-tu et ton parcours jusque-là.
Donc, je vais essayer de ne pas être long parce qu'il y a déjà quand même quelques décennies que je sévis. Je pense que c'est un parcours qui est imprévisible, en tout cas que moi, je n'avais pas prévu. J'aime assez bien ça. Je pense qu'il y a des moments où j'ai fait des choix qui étaient considérés de l'avis unanime comme hasardeux et qui finalement ont été plus longs que des choix marqués par la sécurité.
C'est ça.
Voilà. Alors c'est amusant parce que moi j'ai une jeunesse urbaine, j'ai une famille dont une partie paternelle vient de la région de Serein, avec beaucoup de liens avec le Condroz aussi et mes grands-parents. Et ça a toujours été le contraire, c'est que quand je vivais en ville, j'ai commencé à travailler à la campagne. Et quand j'ai commencé à réhabiter en ville, on m'a fait envoyer travailler à la campagne. Donc finalement, ça, c'est intéressant pour la suite de choses qui se sont passées, puisque le lien ville-campagne m'a souvent marqué. Et aussi, ce qui est toujours intéressant, puisque je travaille beaucoup avec des gens, des groupes, etc., c'est la perception qu'on a de l'autre. C'est quand j'arrivais de ma campagne à Bruxelles, on me traitait de rural. Et quand je suis arrivé de la ville, que ce soit Bruxelles d'abord et puis Liège, vers les campagnes, on me traitait d'urbain.
Bon, ouais, voilà. C'est dur.
C'est comme ça. Alors, il y a quelque chose qui est quand même revenu pas mal, de manière constante, c'est les questions relatives à la ruralité qui ont été assez présentes dans mon parcours. Alors, je vais passer ma jeunesse, mon enfance et tous ces trucs-là. J'ai pas tellement de nostalgie, mais enfin, je peux mesurer aujourd'hui à quel point ce que j'ai connu d'une certaine ruralité et notre cadre de vie en général, même urbain, a quand même profondément changé aujourd'hui, avec beaucoup d'enjeux. Et j'ai aussi assisté au déclin, de fait, étant depuis tout petit de Serein, par exemple, qui était quelque chose d'assez dramatique et impressionnant, comme quoi on peut être le centre du monde en termes sidérurgiques et du jour au lendemain devenir une zone déshéritée à qui on ne reconnaît plus aucune qualité. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait moi ? J'ai travaillé beaucoup dans l'animation en milieu rural, en Nourtemblay. Là, on est dans les années 80, on va essayer d'aller vite, et puis si tu as des questions, tu y vas. Et puis grâce à ça aussi, je suis parti au Pérou pour rencontrer des jeunes du milieu rural, qui fut une expérience assez intéressante, parce qu'elle m'a permis de découvrir ce que c'était une dictature, un pays dit en voie de développement, le rôle des multinationales, notamment dans la question du lait, les problèmes de paysans, les questions de guérilla, enfin des choses comme ça, et de manière directe, mais sans avoir vécu des choses dramatiques, je ne dis pas ça, ce que c'est la pauvreté et comment les villes dans le monde se sont développées parfois à une vitesse vertigineuse. Je me souviens d'avoir fêté des invasions réussies, comme on appelait ça autour de Lima. Ça laisse des marques et des souvenirs. Alors en 88, je suis dans le milieu de l'animation, en milieu des jeunes, en milieu rural, où j'ose dire que je m'ennuie un petit peu parce que voilà, il y a un peu de routine et puis il y a un déclin aussi chez nous par rapport à ça. On n'arrive pas à se renouveler. Et je saute dans une aventure dès son départ qui est l'opération Village Roumain. Et donc là, il y a de nouveau question de l'intégrité de village menacée par un plan de systématisation, de nouveau une dictature, mais cette fois-ci, celle-ci est plutôt de type socialiste communiste avec le camarade Ceausescu. Et donc là, je fais partie d'une aventure improbable qui va durer jusque 2002 en ce qui me concerne, où je quitte définitivement la direction du réseau international Village Roumain qui avait réuni, pour faire simple, 3000 communes européennes et un nombre incalculable de citoyens pour aller sauver et préserver leur village. Bon, derrière ça, il y a eu toute une série de projets de développement local, de développement du tourisme dans les villages, de transformation de la production, de valorisation des produits locaux, de la culture, du patrimoine, patati patata. Et donc une aventure tout à fait intéressante. par comparaison aussi avec notre situation. Et je me suis dit, en revenant, bah, j'ai appris là-bas des choses, enfin en revenant parce que j'y allais souvent, par rapport au fait aussi de travailler sur ces questions chez nous. Parce que là aussi, c'était intéressant de voir émerger une citoyenneté qui était quand même largement mise sous l'étouffoir, un monde associatif qui se redéveloppe. Et en quelque sorte, chez nous, la difficulté à comprendre qu'on avait pas mal de chance. On a toujours de la chance, d'ailleurs, d'avoir toutes ces ressources dans nos sociétés. Alors, en parallèle, je reprends des... Donc, j'ai un diplôme de prof de sciences-géographie à ce moment-là. Je reprends des études à la FOPES, donc une faculté ouverte à l'UCL. Et alors, je retiens deux choses. C'est que la première, c'est que bon, j'ai eu des cours de développement régional, des choses comme ça, donc... je reste tout le temps dans le développement des territoires.
C'est ça,
je m'en rends
le
compte.
Local. Hein.
Le local, le territorial et toutes ces questions-là. Et puis, on m'a dit là-bas, FOPES, c'est on forme des agents de changement. Bon, ça, je ne l'ai pas oublié. Je pense, si je regarde en arrière, que vouloir changer les choses, avoir cette conviction parfois un peu sotte et naïve qu'on peut changer le monde et les choses, elle épuise parfois, mais elle est intéressante à développer. Bon, alors cette histoire de village roumain, ça nous a emmené à un autre truc qui s'appelait cause commune en ex-Yougoslavie pendant la guerre.
Ah ouais.
Et puis au Rwanda sur d'autres questions, réseau de citoyens. Donc on n'arrête pas, c'est un peu fatigant. Mais moi je suis resté pendant plusieurs années, mes petits camarades moins, sur la question roumaine. Parce que ce qui m'intéressait, c'était au-delà des élans citoyens, humanitaires et les vagues d'émotions hein, qu'on peut connaître dans nos sociétés. Ce qui était intéressant, c'est d'approfondir et d'essayer de transformer l'essai, quoi, en quelque sorte. Voilà. Alors, c'est quand même intéressant aussi, c'est que là, j'étais aussi confronté, alors que le local et le global, c'est que beaucoup de projets étaient financés par l'Union européenne, hein, qu'on n'appelait pas encore comme ça à l'époque, la Commission européenne. Il n'y avait pas encore d'euros, mais il y avait déjà des écus. Et donc, j'ai goûté aux joies de la gestion de ce type de projet. Ça a failli coûter la vie à mon association parce que ce type de programme n'est pas toujours très très bien géré ou est un peu déconnecté des réalités de terrain. Mais là, je suis assez têtu, je pense, surtout quand c'est un intérêt qui dépasse mon intérêt personnel. Et je me suis battu pour récupérer mes sous. Et j'y ai gagné doublement puisque d'abord on les a récupérés et puis on n'a simplement pas mis des gens à la porte, on n'a pas arrêté de financer des projets locaux. Et après ils m'ont recruté pour, comme expert pour sélectionner des projets parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient une connaissance du terrain. Donc ça m'a appris un peu l'envers du décor, quoi, de voir comment ça fonctionne, avec à la fois un regard positif sur, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font qui sont intéressantes, en tout cas dans leur principe. Parfois, dans leur application de modalités, la bureaucratie s'en est emparée. Donc ça complique les choses, surtout quand nos États et nos régions ont pris la relève. On a rajouté une couche de complications là-dedans. Et donc ça tue un peu parfois les motivations. Voilà. En 2002, on est déjà là. Donc avec... on développe toute une série de projets, hein, donc... On crée une fondation rurale en Roumanie, par exemple. Ouais. On fait une université européenne de la ruralité. On mène beaucoup d'actions. Mais on est toujours dans des cadres qu'on ne maîtrise pas complètement. Et donc, avec quelques-uns de mes petits camarades de l'époque, on crée une société coopérative qui s'appelle TRAM. Donc, la TRAM, c'est bien, parce que l'idée de la TRAM, c'est le maillage, c'est le réseau. Et on développe une expertise progressivement et des compétences sur... l'accompagnement de projets de développement territorial, avec un volet participation qui est relativement important. Où donc, en fait, je dirais le centre de notre métier, c'est finalement faire de l'animation et stimuler ce qu'on appelle l'intelligence collective. On n'a pas dit comme ça au début, mais maintenant, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et donc, notre travail est souvent d'accompagner, d'appuyer, d'avoir des méthodes, des outils, et de ne pas se substituer à celui avec lequel on travaille, que ce soit un groupe de citoyens, une commune, la région, etc. Donc ça demande aussi de développer aussi une posture, en fait, en quelque sorte, et parfois de s'abstenir, de vouloir induire chez l'autre ce qu'on trouve qu'il devrait quand même faire, non d'une pipe,
s'il était malin. Ça prend du temps, ça.
Voilà, ça prend du temps. Et donc, moi, ça, c'est une façon de travailler qui me permet de toucher alors à vraiment tout, puisque à la fois en termes d'échelle, on peut être rénover ma rue jusqu'à région wallonne et même parfois des projets européens avec plusieurs entités, collectivités. On travaille avec le public, essentiellement avec de l'associatif, mais aussi maintenant avec du privé, maintenant sur des grands projets d'envergure comme les anciennes forges de Clabecq. C'est du Ferco Développement qui nous a appelés pour développer des projets, à Liège aussi sur certains projets. Et donc là, nous, on a un rôle très clair, c'est de préparer le terrain, faire se rencontrer les parties, organiser la concertation et sortir parfois de dynamiques qui sont conflictuelles et qui finalement ne produisent rien du tout, des blocages, et produisent souvent aussi des projets qui ne sont pas satisfaisants pour toutes les parties.
Ok, mais l'objectif de ces projets alors, c'est surtout quoi ? C'est redévelopper un tissu économique local ou ça va plus loin que l'économie ?
Ça dépend. On a travaillé sur le master plan de Serein. Bon, j'en parle parce que le master plan de Serein, ben, aujourd'hui, on peut voir ce qui est en train de se faire. Et à cette époque-là, c'était comment réorganiser, redéployer le territoire après l'industrie sidérurgique.
Bon,
ce fait que quand on a travaillé dessus, Mittal, juste après, a racheté. On se doutait qu'il allait repartir assez vite. Il est reparti fort vite.
Ouais, extrêmement vite.
En quelque sorte, avec peut-être un temps d'attente, des espoirs, mais beaucoup d'espoirs déçus, je pense, pour la plupart des gens.
Ouais.
Et donc, je pense qu'on a retardé un processus de renouveau plutôt que de continuer à s'enferrer dans des choses où y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais où ce qui est important là-dedans, c'est de retrouver la maîtrise de nos propres territoires
c'est
et pas cette terrible dépendance de gens qui disent d'un geste ou d'une décision qui peuvent dire ben, « je prends pas, je garde, je jette
». Ou pire, je mets sous cocon et vous ne pouvez pas l'utiliser.
Ou je gèle et j'empêche effectivement autre chose de se développer. Donc, bon, ça c'est par exemple.
C'est dans le Condroit où on est touché avec Marchin qui est sous cocon
qui
est là mais qui ne peut pas être utilisé. Ouais.
Exactement, et ça je trouve que c'est encore pire, ce type d'attitude. Donc, ça peut concerner ce qu'on appelle du développement urbain, mais sinon, depuis 15 ans, je travaille avec des CPS dans le nord du Luxembourg sur des dispositifs aussi d'accompagnement de public. Je dirais qu'il dépasse un peu l'accompagnement de base de ce que les CPS peuvent faire, qui a aussi créé un réseau de partenaires. Il y a 10 communes, il y a tout un monde associatif sur, allez, pour faire simple, des parcours individualisés et adaptés pour des publics très éloignés de l'emploi. Voilà. Moi, j'ai des collègues qui travaillent sur aussi le monde des centres culturels et de l'action culturelle sur l'évolution de leur mission. On travaille sur des questions de... Allez, je vais prendre un exemple que tu connais. Ouiouarem, la région de Ouiouarem, ben, on a accompagné des techniciens, des urbanistes sur l'élaboration d'un schéma de développement territorial de Ouiouarem.
C'est ça.
Où notre travail, ça a été de faire travailler les bourgmestres et les échevins. Au début, on nous a
dit... La conférence des élus.
Voilà, vous ne les aurez jamais, ils ne voudront pas et tout. Et pourtant, on a quand même fait 6 ateliers avec eux pour construire l'ensemble du schéma de développement et avec un taux de participation de 80%.
C'est le SDER, c'est ça ? C'est ce qu'on appelle le SDER ou c'est autre
chose ? Non, le SDER, ça, c'était un projet... d'orientation du développement des fondamentaux sur l'ensemble de l'espace régional wallon.
D'accord.
En dessous de ça, en quelque sorte, alors c'est tout un débat sur les bassins de vie et tout, mais pour l'instant, en province de Liège, à l'échelle des arrondissements, ils se sont rendus compte, et Ouarem était le premier, qu'ils devaient se doter d'une stratégie, en quelque sorte, ou un master plan, on dit aussi aujourd'hui, pour anticiper sur ce qui va changer
demain. Oui, on ne dit plus un plan maître, on dit un master plan.
On utilise beaucoup de mots anglais par rapport à ça.
C'est plus vendable, c'est plus bancable.
L'arrondissement de Liège va faire la même chose, les germanophones ont fait leur propre exercice, Verviers peut-être un jour, et maintenant la province, mais ça tout le monde veut se positionner maintenant,
c'est ça.
A aussi lancé un projet de schéma. Je pense qu'aujourd'hui, impossible, même si on parle tout le temps dans l'urgence ou on n'a pas le temps de s'occuper de ça, les territoires qui n'ont pas de vision, qui ne savent pas dans quelle direction ils vont, qui n'ont pas refait tout un travail sur eux, bah, ils avancent comme ça et on a vu ce que ça donne dans nos territoires.
Okay.
Beaucoup de difficultés à résoudre maintenant.
Alors c'est bien parce que là, déjà dans ton profil, tu rentres dans l'enjeu, dans l'enjeu liégeois.
Mm-hmm.
Donc nous, Végétal Valais, l'objectif principal, c'est la désintermédiation, c'est raccourcir le chemin entre le consommateur, enfin, entre le producteur, pardon, et le consommateur. Et l'autre partie, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui avec ce podcast, hein, c'est de faire en sorte que des gens comme toi qui n'ont pas nécessairement la tribune habituellement puissent atteindre la population, en tout cas mm-hmm. tout le nombre de projets qu'il y a en place. La question qu'on pose justement, c'est selon toi, et je vois que tu y arrives, quel est l'enjeu numéro un ici en province de Liège pour un redéploiement?
Mais en fait, je vais peut-être pas me faire des amis, mais je le dis avec, je dirais, beaucoup de... Enfin, c'est de la distance et de la réflexion, mm-hmm. et le fait que je côtoie beaucoup de décideurs locaux, mm-hmm. beaucoup de citoyens, des acteurs, quoi,
mm-hmm.
des entreprises, etc. Je suis souvent, enfin moi ou mes collègues, on est souvent sollicités professionnellement pour animer des choses. Et je pense qu'on a encore, alors que pourtant, on a des tas d'initiatives pour l'innovation, la créativité, on crée des tas de lieux, peut-être un petit peu trop d'ailleurs,
okay.
de lieux, qu'on a du mal encore à se lâcher à Liège et à vraiment ouvrir la perspective. Parce qu'on est encore, je dirais, culturellement, mentalement, dans des schémas.
Mm-hmm.
Et je mets tout le monde dedans. Hein. Je dis pas, je vise personne en particulier. Où on est encore marqué par il faut voir grand, il faut travailler avec l'exportation.
Il faut créer beaucoup d'emplois.
On vise encore des objectifs en quelque sorte mm-hmm. qu'on n'arrive pas. Depuis des années, on a développé un certain nombre de nos points de force, mais sur d'autres. C'est comme si on avait peur de se lâcher
mm-hmm.
et de laisser aussi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, d'autres regards se poser sur des questions.
Okay.
Parce que ce que j'ai constaté dans beaucoup de lieux, c'est qu'on reprend souvent les mêmes, qui sont souvent des gens très compétents et tout. Mais si on veut vraiment décloisonner, si on veut vraiment sortir de nos limites intellectuelles propres, si on veut vraiment faire de l'intelligence collective, il faut créer les conditions, mm-hmm. parce qu'il y a une question de conditions aussi, et permettre de se rencontrer... sans tabou, j'ai envie de dire, mm-hmm. librement, l'ensemble des acteurs intéressés par telle ou telle question.
C'est ça.
C'est...
Donc donner un potentiel d'atelier à tous ces gens-là qui voudraient...
Ça, c'est la modalité, mais je me suis rendu compte en faisant les exercices, en arrivant... il faut aussi créer des conditions pour que ça se passe.
C'est ça.
Parce qu'en quelque sorte, j'ai appris ça dans les formations... si on reste sur nos rails de pensée, de fonctionnement et tout, on ne peut pas produire quelque chose de nouveau, c'est pas possible. On ne change pas un système avec les gens qui l'ont produit mm-hmm. et qui ont immanquablement besoin de le maintenir.
C'est ça, ouais.
On est quand même comme ça.
Ou au moins de le valider. Ouais.
On a tous horreur du changement. Et donc, à un moment donné, il faut créer, j'ai envie de dire, des espaces sécurisés
mm-hmm.
où les gens peuvent sortir de l'idée qu'on a. Et en fait, en quelque sorte, c'est un moment qui peut être chaotique.
Mm-hmm.
Tous les créateurs le disent toujours. Je regardais encore quelque chose sur la culture et l'autre jour sur l'urbanisme du futur, hein, l'urbanisme climatique, l'urbanisme du 21e siècle. Les gens disent si on empêche de se lâcher, si on ne laisse pas le chaos s'installer, émerger même des idées apparemment sans lien entre elles, mmh. avant de remettre de l'ordre là-dedans, il faut un peu créer du chaos.
Ouais.
Un bouillonnement d'idées hein, ou un brainstorming.
C'est ça, ouais.
Donc il y a des tas de techniques pour ça, je ne parle pas technique,
ouais.
mais c'est vraiment accepter ça. Et si on peut l'accepter, après, le travail sur est-on capable de le faire, a-t-on les compétences ou quelles compétences on doit développer, on peut le faire après. Et souvent, je ne sais plus qui a encore dit ça, dans un prix Nobel de littérature sud-africain dont on parle dans la Gazette pour le moment, c'est une formule que j'aime bien utiliser. On ne sait pas fermer une porte qu'on n'a pas ouverte. Quoi.
Mm-hmm.
Et très souvent, on ferme d'abord la porte avant de l'ouvrir, parce que comme si ça faisait peur, quoi.
Ah oui, oui.
Et donc finalement, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes dans cette affaire-là, alors que je suis obligé de constater que le Liégeois est plein de ressources.
C'est clair, c'est clair. Et alors, en termes de solutions, qu'est-ce que tu aurais avancé là-dessus un pouvoir organisateur un peu plus en phase avec des ateliers de ce type, ou est-ce que tu penses plus que ça devrait venir vers le du bas, pardon, de coopératives et d'organisations citoyennes?
Je dis, c'est ni l'un ni l'autre, c'est la rencontre des deux.
C'est ça.
Moi, ce que je vois souvent, c'est... J'ai lu quelque chose il n'y a pas longtemps, mais je ne l'ai pas encore approprié. C'est qu'on est dans nos sociétés dans un modèle relativement hiérarchique. Mm-hmm. Donc ça, c'est assez descendant. Ça.
C'est ça.
Parfois, ils ont des bonnes idées, mais en même temps, ils veulent les vérifier. Donc si on se trompait d'idée fondamentalement, ben, on va tous collectivement dans le mur. Et puis de l'autre côté, et ça émerge pas mal maintenant, ou ça réémerge pas mal maintenant, hein, c'est pas nouveau, mm-hmm. c'est les modèles collaboratifs ou les c'est modèles ça. Coopératifs, mais qui eux-mêmes aussi ont des inconvénients. Mm-hmm. Quand ils ne savent pas ce qu'ils doivent produire et qu'on reste dans le débat, dans l'échange.
Qu'il n'y a pas de vision. Hein.
Non, pas seulement, mais qu'on ne se donne quand même pas la volonté mm-hmm. ou les conditions pour produire quelque chose, pour mm-hmm. sortir quelque chose de ça. Et alors, on discute et on n'atterrit jamais. J'ai vu un gars, là, un chercheur qui a fait... le mot est très grossier, je suis désolé, mais ça s'appelle la stigmergie, donc... Mm-hmm. C'est lié au monde animal et la façon dont, par exemple, sont construites par les animaux qui vivent en communauté, hein, les abeilles, les fourmis et tout, qui construisent des termitières comme ça, sans nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui dise il faut le faire, mais il y a quelque chose qui à un moment donné, se développe, je ne vais pas dire dans leur cas de manière automatique,
naturellement,
mais toute une série de choses. Et appliquer aux hommes, en quelque sorte, ce serait arrêter de vouloir tout le temps tout contrôler, parce que la hiérarchie ou l'hyper-collaboratif ou coopératif, c'est aussi une manière de se contrôler les uns les autres, mm-hmm. Soit collectivement, soit parce qu'il y a une hiérarchie qui peut décider. C'est privilégier les idées, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu pour le moment.
C'est ça.
Privilégier les idées plutôt que celui qui a produit l'idée, et ouais. laisser chacun s'emparer des idées et en faire quelque chose. Moi, je pense, et je suis convaincu quand j'ai lu un petit article là-dessus, que si une idée est pertinente et qu'on laisse les gens les porter
ouais.
et tout, elles vont se faire. Si elles ne sont pas pertinentes, on les pose sur le côté, on repart sur une autre. Voilà, et ça rejoint cette idée que on doit plus se permettre encore d'expérimenter. Mmh. Il faut toujours, on entend très souvent quand il faut financer des choses, c'est est-ce que c'est sûr que ça va marcher?
Mais oui, oui. Mais donc, ça, c'est dans le privé comme dans le public.
Ouais. Voilà. Et donc, je pense que nous demander toujours demander aux porteurs
des assurances,
projet, des assurances et d'être sûr. Donc, les banques, c'est la même chose. Ouais. On ne peut plus prêter sans être sûr. Et donc, je pense que là, la culture américaine a quelque chose d'intéressant parce que, pas dans ses excès. Mais dans ce qu'elle, quand on voit notamment le mouvement de l'économie circulaire ouais. ou du circuit court aux États-Unis, en fait, allie de manière assez intéressante cet esprit d'entreprendre et cette prise de risque et cette capacité à accepter de se casser la figure, mais d'en profiter pour en apprendre quelque chose et se relever, avec des objectifs porteurs de valeur aussi. Mm-hmm. Parce que ça, quand c'est le capitalisme... débridé avec le seul profit. Oui, décomplexé. Mais ça, on voit tous les dégâts que ça fait dans nos sociétés et ouais. ça, c'est plus acceptable.
Mais il faut une prise de risque quand même.
Mais à un moment donné, sans essayer, on n'y arrivera pas.
C'est ça.
On est dans l'expérimentation. Donc voilà, à la fois créer les conditions pour que les choses puissent émerger. Et alors, la deuxième chose, le sujet qui m'intéresse maintenant, c'est il y a le projet ceinture alimentaire. Et d'une manière générale, une économie plus relocalisée, une économie plus circulaire, où en gros, ce qui est intéressant, c'est que les bénéfices de tout ordre, hein, pas seulement financiers, mais ils se font ici,
ouais.
pas dans la poche de certains qui sont à l'extérieur, qui spéculent et tout ce qu'on veut. On a trop besoin de ça en région liégeoise, on a trop de gens au chômage. On a beaucoup trop de jeunes qui sont de plus en plus diplômés et de moins en moins au travail. Il y a beaucoup trop de gens qui ne sont pas utilisés. et qui n'ont donc pas d'utilité sociale, de rôle social dans la société, c'est un peu inadmissible. C'est tout à fait inadmissible dans notre société. Et donc, mettons des moyens là-dedans.
En disposition. Ok. D'autres projets je sais que tu es extrêmement actif.
J'essaye.
Tu te promènes dans deux, trois comités d'administration, genre série WTS.
Non.
SRWT.
Non, sur le plan. Donc j'ai des mandats politiques
c'est
aussi.
Des mandats politiques, mais il y en a où tu es plus impliqué que d'autres.
Oui. Et donc le mandat que j'ai actuellement, c'est. J'étais administrateur au Tech-Liège-Verviers.
C'est ça.
Et à la SROET.
À SROET, excusez-moi.
Oui, donc, qui est le groupe tech, qui regroupe les 5 tech wallons.
Je mélange toujours SRIW et SRWT. Ouais.
Dans le jeu de la répartition des mandats du gouvernement précédent, j'avais posé ma candidature pour la présidence du Tech-Liège-Verviers qui était attribué à Écolo. Donc, c'est un mandat lié à Écolo. Et donc, finalement, après les élections, le gouvernement actuel a respecté l'ensemble des choix et la clé de répartition, mais pas que pour le tech. Et donc, il y a 3 mois, je suis devenu président du Tech Liège Verviers, ce qui me réjouit parce que ça, c'est un chouette défi.
C'est dur, hein.
Oui, tout le monde me parle tout de suite des grèves et du fait que je vais arrêter les grèves, etc.
Non, mais il y a plein de projets,
fois, c'est une réalité, c'est qu'il y a une question sociale souvent qui est prégnante. Il y a des rapports parfois conflictuels entre les travailleurs et les usagers.
Mais ça, c'est la partie dialogue social, par rapport à la mobilité.
Mais par rapport à Liège,
on
arrive au moment où on est quasiment au bout de la procédure de sélection du consortium qui va construire le tram.
C'est ça, oui.
On va rentrer dans la joyeuse période du chantier.
Ouais.
Mais en même temps...
C'est curieux, on avait l'impression d'y être déjà, mais...
Les travaux ont commencé. Mais quand la désignation du consortium sera faite, contrairement à ce que les gens pensent parfois, le consortium qui sera choisi a intérêt à aller vite.
Ouais.
Parce que s'il ne va pas vite dans l'exécution de son chantier, il va perdre de l'argent, puisqu'il va travailler à enveloppe fixe.
Ouais.
Et donc, le chantier, mais il y a le chantier du tram, mais derrière ça, c'est l'occasion tout à fait extraordinaire de pouvoir repenser l'ensemble du réseau liégeois. Quand même savoir que c'est le réseau le plus important de Wallonie.
C'est ça. Et il sature. Il transporte
144 millions de personnes par an.
Ouais. Et il y a des heures où ça sature.
Pour le moment, le tram arrive pas trop tard, mais on aurait déjà dû trouver des solutions avant, parce qu'il y a les lacs centrales de la vallée est sursaturé et donc ne fonctionne plus bien. Et quand un réseau de transport ne fonctionne pas bien, les usagers sont pas contents.
C'est ça.
Donc ils retournent vers la voiture.
C'est ça. Et notamment. L'économie aussi a du mal. Ok. Voilà, donc pour les projets. Est-ce que pour tes projets en général, quel type d'aide en général tu fais appel aux aides européennes ou aux aides de recherche ou plus à la région ou au local? De quel type d'aide tu aurais besoin pour continuer à œuvrer dans l'économie circulaire et locale?
Oui, parce que on utilise une gamme assez large de possibilités de financement depuis
le
très local.
C'est ça, on s'y perd un peu.
Jusqu'à l'européen, mais ça dépend chaque fois des projets. Il faut savoir que nous, professionnellement, je reviens sur le plan professionnel, on fonctionne par marché.
C'est ça.
Donc, ce sont des appels
d'offres. Ah oui, il n'y a plus que des projets, de toute façon, il n'y a plus que des marchés.
Voilà, on répond, on est sélectionné ou pas, et on est financé en fonction des moyens... qui sont alloués par le commanditaire, qui sont comme toujours jamais suffisants, assez rarement et souvent très contraignants. Donc ce qui est embêtant, c'est que ça ne permet pas toujours d'atteindre les objectifs dans les meilleures
comme
conditions
espérer,
possibles. Mais si j'en reviens au financement de l'économie circulaire, en tout cas de mon point de vue, il y a 3 choses qu'il faut financer dans l'économie circulaire et qu'elles soient appliquées par exemple à l'alimentation et au circuit court maraîcher et alimentaire en général. Le premier, c'est que souvent, c'est un peu la chose qu'on ne fait pas, c'est vraiment financer l'accompagnement de cette dynamique qui est une vaste dynamique d'acteurs. dans un travail conséquent, comme vous le faites aussi ici, c'est sensibiliser, expliquer, comment accompagner les gens dans leurs initiatives, dans la société, j'ai envie de dire, travailler sur les écoles, travailler dans le système éducatif en général, échanger avec des initiatives qui existent partout dans le monde, parce qu'il y a en fait des tas de choses qui se font. Et alors il y a un deuxième volet aussi, et c'est de nouveau, je vais utiliser le mot accompagner, parce que bon, il y a tous ces gens-là à connecter, à mettre en réseau, donc sans jamais se substituer à eux, pour les porteurs de projets et tous ceux qui ont des idées intéressantes, etc., c'est leur permettre de concrétiser ces idées, de les démarrer, de les tester et de les viabiliser. Et là, de nouveau, il y a tout un travail de conseil, d'accompagnement sur plan d'affaires, montage de projet, des choses comme ça qui me semblent importants. Encore une fois...
Ici, on l'a avec des choses très web, techno, etc. Nous, on essaie de le faire dans le Condro et jusqu'à Liège sur la partie bio-agronome, mais c'est quand même quelque chose qui manque en Wallonie.
Oui.
L'incubation de... d'initiatives d'entreprises au niveau agraire.
Ouais. Mais tu as raison, en fait tu indiques une chose, c'est que moi la façon dont je vois les choses par rapport à en fait l'accompagnement individuel des initiatives et leur mise en réseau aussi, donc tous ceux qui sont porteurs d'un projet qui mérite d'être mis en œuvre, c'est le principe qu'on appelle de subsidiarité.
C'est ça.
Je pense qu'on a en gros beaucoup de ressources possibles pour aider des gens à créer leurs projets, pour les mettre en réseau, etc. Mais il manque peut-être une sorte d'interface ou une plateforme qui réunit... Alors, je vais terminer. C'est un, l'axe dynamique d'acteurs. Deux, l'axe projet démonstratif, projet qui montre qu'aujourd'hui, un projet comme la ceinture alimentaire peut se concrétiser, s'incarner dans quelque chose... démarrer quelque chose progressivement. Et le troisième axe, et ces trois pôles doivent se parler, c'est ce qu'on appelle recherche et développement.
C'est ça.
Parce que je crois qu'il ne faut pas se payer de mots. L'économie circulaire, en termes de principes et tout, je pense que c'est assez clair. On en voit beaucoup les avantages, les opportunités que ça représente à tout point de vue. Ce sont vraiment des projets très, très systémiques, très globaux. Qui prennent en compte des défis globaux et en même temps qui permettent de résoudre des problèmes concrets, de trouver des emplois pour les gens, de nourrir les gens correctement, d'assurer notre bien-être, enfin, tout ce que tu veux. C'est aussi de créer des modèles socio-économiques, ce qui n'est quand même pas si simple, qui soient viables, mais aussi qui s'inscrivent dans un système qui, globalement, ne fonctionne pas selon les mêmes logiques.
C'est ça.
Et de ne pas le tuer tout de suite.
Parce arriver que à s'intégrer. Hein.
Je pense que ce n'est plus un secret pour personne de se dire que le système économique dans lequel on vit est largement essoufflé et a un petit peu beaucoup de mal.
C'est ça, oui.
Je pense que chacun, ça fera écho chez chacun. Et je pense que ceux qui continuent à tenir ces discours, qui pensent que la croissance va être relancée, etc.
Ouais.
Moi, je pense qu'il y a d'autres modèles... alors, de croissance de quelque chose, mais le modèle de croissance économique, j'ai envie de dire, pur et dur tel qu'on l'a connu...
Ouais, basé sur la démographie et sur le productivisme.
Voilà, et il est tellement maintenant... il a tellement d'externalités négatives que ça en devient insupportable pour nous et pour
la planète. On a atteint un plafond.
On l'a dépassé, largement. Et donc, ça veut dire aussi que tout ça, c'est une manière de... Si je reviens, c'est de vraiment prendre en compte les enjeux qui ne sont pas de demain. Mais comme on est dans des systèmes dynamiques, quand on voit notre agriculture, elle est en train de se bouleverser complètement. Elle ne peut plus se permettre d'être une pétro-agriculture avec beaucoup d'intrants et beaucoup d'externalités négatives. Les conditions climatiques changent, qu'on le veuille ou non, et donc elle va aussi muter d'une certaine manière. Elle doit se trouver une relation saine et équilibrée avec l'urbanisation, parce que la population est en train d'augmenter, même chez nous en Wallonie. On parle de quand même 400-500 000 habitants en plus à des horizons de 30-40 ans. Donc il va falloir trouver de la place pour ces gens, il va falloir créer de nouvelles activités. Donc En même temps, pour moi, ce n'est pas du tout une contrainte, ce n'est pas du tout un recul.
Non, c'est un enjeu.
C'est vraiment quelque chose.
Une opportunité.
Qui, une véritable opportunité avec beaucoup de bénéfices, pas collatéraux, mais avec beaucoup de retombées sur le territoire liégeois. C'est quand même ça qui nous intéresse aussi.
C'est clair. Ben voilà, ben dernière question, elle est existentielle, Daniel.
Ouh là
celle-là,
là.
Ouais, c'est celle où tu es censé exprimer devant le micro tout tes regrets ou pas. En gros, pour ceux qui sortent maintenant, les jeunes adultes, histoire que tu puisses un peu les guider, qu'est-ce que tu ferais autrement à refaire ? Est-ce que tu ferais tout pareil ?
Tu parles pour moi ou
pour... Oui, pour toi, hein, Daniel. Hein,
je ne sais pas, pour moi, d'abord, on ne refait pas les choses. Moi, je suis quelqu'un de promouvant, donc je...
Ouais.
J'essaie d'apprendre de mes erreurs et de mes réussites. Je n'ai pas spécialement envie de dire si c'était à refaire.
Tu
etc.
regrettes de ne pas avoir été auditeur chez Deloitte ou est-ce que tu aurais
pas
bien
du
voulu
tout,
créer
Je pense que j'aurais pu faire ces choix-là à une époque. Je dirais il y avait des lignes comme ça qui étaient ouvertes pour faire ça, pour gagner bien ma vie, etc. Je ne me plains pas. Je pense que c'est important d'avoir les moyens de vivre pour pouvoir justement rester indépendant, autonome, etc.
C'est ça.
Mais non, ce que j'ai envie de dire par rapport à... Dans ce que je travaille et redécouvre et qui fait sens pour moi aujourd'hui dans le développement des territoires, enfin, je vais revenir avec mon mot d'intelligence collective, mais donc je pense que les entrepreneurs d'aujourd'hui ou ceux qui veulent entreprendre quoi que ce soit dans la société, hein, je ne sais pas, même... à finalité sociale, purement économique, dans le secteur culturel, qui est aussi un merveilleux secteur à développer. Dans le secteur social, on peut aussi être un entrepreneur, et dans le secteur environnemental, on peut aussi développer toute une série de belles entreprises. C'est de ne pas, je dirais, le penser et le faire de manière trop individuelle, basée sur une réussite, c'est « je vais gagner contre les autres ».
C'est ça. Ouais.
D'abord, on ne gagne que contre soi-même, ça c'est absolument clair. Si on y arrive, sinon tant pis pour soi. Et donc, se les relier avec les autres, interagir avec les autres, être à l'écoute de ce que les autres ont à proposer, se mettre à la place des autres, créer du réseau, de la synergie... Pour moi, c'est une des conditions de la réussite. Accepter de se laisser surprendre, ce sont des choses que je dis souvent aux gens qu'on réunit, quoi. Si vous n'êtes pas capable d'écouter les autres et si vous n'êtes pas prêt à vous laisser surprendre, vous n'aurez rien à apprendre ici, donc vous perdez votre temps.
C'est ça.
Circuler, comme disait l'autre, il y a tout à voir.
Merci Daniel.
Je vous en prie, cher ami.
Bonne journée. Hein.
Merci.
Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt.